Et alors, pour terminer cette matinée, nous allons écouter Karl-Heinz Stierle, qui est professeur émérite à l'Université de Constance et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, sans parler de ses nombreux, ses autres et innombrables titres. C'est à la fois un grand spécialiste de la littérature italienne, enfin, c'est un spécialiste de toutes les littératures romanes, comme sont les grands professeurs allemands, mais enfin spécialement de la littérature italienne du Moyen-Âge et de la littérature française du XIXe siècle. Alors, son livre sur Paris, cette époque, a été traduit en français et est devenu un classique. Et ses ouvrages sur Pétrarque, sur Dante, écrits en allemand, sont traduits en italien immédiatement et lui valent une gloire méritée. J'ajoute que c'est grâce à lui que ces colloques peuvent se tenir, de sorte que nous lui avons une reconnaissance particulière, puisque ces colloques sont financés par les fonds recherche du prix Balzan que j'avais eu en 2007 et que je lui dois largement. Et, bon. Et donc, il va nous parler de l'auteur dont il est le meilleur spécialiste actuel, de Pétrarque, Rerum vulgarium fragmenta un canzoniere, le sens du titre latin des vers en langue vulgaire de Pétrarque. Cher Karl-Heinz, vas-y.
C'est le micro.
Ah, c'est le micro. Donc je recommence. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre und Freude, hier vor Ihnen in dem berühmten Collège de France zu sprechen. N'ayez pas peur, je ne continue pas en allemand. Mesdames, Messieurs, d'autres langues que la mienne, tel est le thème de notre colloque. Que je vous parle dans une autre langue que la mienne, vous ne le remarquerez hélas que trop. En revanche, vous aurez devant vous l'exemple vivant de ce qui se risque dans une langue qui n'est pas la sienne. Quelle est la langue sienne de Pétrarque? Est-ce le latin ou l'italien? Et quelles sont ses autres langues? Pétrarque aurait bien aimé pratiquer le grec pour pouvoir lire Homère. Il est vrai, il possédait un codex précieux des œuvres d'Homère, mais il restait muet devant lui, et il fallait le calabrais Leoncio Pilato pour en rendre une version latine commandée par Pétrarque lui-même et par son ami Boccace. Dans quelle langue parlait-il alors, grand objet de ses rêves et de ses désirs, à Laura, grand objet de ses rêves et de ses désirs? Était-ce en provençal? Puisque leur première rencontre avait, selon Pétrarque, lieu en 1327, dans une église d'Avignon, ce serait bien probable, d'autant plus que Pétrarque passait son enfance et sa jeunesse à Carpentras, où son père, exilé de Florence comme Dante et notaire à la cour papale d'Avignon, logeait sa famille, et qu'il semble presque impensable que Pétrarque ne parlait pas la langue du pays. Leur l'amante fugitive et idéale parlait-elle italien? Ou au moins le comprenait-elle? Il serait amusant de s'imaginer que l'heure de Sade, peut-être, si nous voulons croire le brave abbé de Sade, ne comprenait même pas les poésies d'amour que Pétrarque lui aurait envoyées. Mais qu'en est-il du français? Est-ce que Pétrarque le comprenait? Est-ce qu'il le pratiquait? Dans son discours prononcé comme ambassadeur des Visconti de Milan, devant le roi français Jean le Bon, libéré à leurs frais, Pétrarque parle latin en s'excusant d'ignorer le français. Est-ce croyable? Il est plus vraisemblable que Pétrarque, dans une situation officielle, au lieu de s'accommoder à une langue sortie des ténèbres du Moyen-Âge, voulait se prononcer dans la langue toujours vivante de l'Empire des Romains. Il semble bien que la vraie langue sienne de Pétrarque était le latin. Un latin rajeuni sur la base de la littérature classique de l'ancienne Rome. La plus grande partie de la production littéraire de Pétrarque était en latin. Sa grande épopée Africa, avec laquelle il voulait rivaliser avec Virgile et surtout avec Dante, ses lettres familières aux amis, que Montaigne n'ignorait pas, ses épîtres métriques, vrais joyaux de la poésie d'occasion, ses grands traités sur la solitude et sur la religion, ses polémiques violentes contre les médecins et contre l'arrogance des érudits français. Bref, Pétrarque maîtrisait tous les registres, tous les niveaux de style du latin. Il s'y mouvait avec aisance comme un poisson dans l'eau. Mais pourquoi alors s'est-il décidé à écrire son œuvre la plus prestigieuse en langue italienne ? Était-ce parce que Pétrarque voulait battre son grand concurrent Dante Alighieri avec sa comédie sur son propre champ ? Voulait-il démontrer qu'un autre Italien, qu'un autre Toscan, moins rude, moins populaire, plus souple et élégant, était possible ? Cette démonstration, d'ailleurs, a bien réussi. Pendant des siècles, l'Italien de Pétrarque, en effet, devint le modèle même de l'Italien littéraire. Mais il me semble que ce choix était surtout motivé par une politique culturelle telle que nous la trouvons formulée dans la canzone 128, Italia Mia. Cette canzone, nous la trouvons au milieu de cinq canzones qu'on pourrait considérer dans leur ensemble comme le manifeste d'une nouvelle poétique. Dans ce contexte, la canzone Italia Mia est le manifeste d'une nouvelle orientation politique de Pétrarque. Celui qui mettait radicalement en question la doctrine de la translatio imperii et qui, avec Cola di Rienzo, rêvait d'une renaissance de la Rome antique, devait comprendre, après avoir vu la fin lamentable de cet aventurier, qu'il était succombé à une illusion et que l'Italie future devait avoir son centre dans l'Italie du Nord, entre Gênes, Milan et Venise. Le poète, qui plaint le déchirement de son pays, est assis au bord, non pas du Tibre à Rome, mais du Po, grand fleuve de la Lombardie. Le Po dove doglioso e grave or seggio. Le Po où maintenant je suis assis, plein de mélancolie. L'italien, son italien, est la langue où s'investit un espoir suprême que les Italiens n'ont jamais oublié et qui s'est réalisé enfin en 1861 avec le fondement du Royaume d'Italie sous Victor Emmanuel II. Nous connaissons son œuvre, qui est à l'origine de toute la poésie lyrique moderne en Europe, sous le titre de Canzoniere. L'édition de Sant'Agata, qui fait autorité, maintient ce titre, Francesco Pétrarca Canzoniere. Mais cette désignation, qui donne au nom générique une fonction de titre, n'est qu'une fabrication de l'histoire de réception. Ce sont les éditeurs italiens qui, au Cinquecento, siècle du nouveau média du livre imprimé, ont propagé ce titre simple et italien. Avec leurs éditions imprimées, ils ont fondé sa renommée européenne, qui du coup a produit un pétrarquisme facile et répétitif, mais non moins efficace pour l'établissement d'un nouveau genre lyrique. Ainsi, le XVIe siècle a refoulé ou occulté le titre que Pétrarque lui-même avait donné à son œuvre. Probablement en autographe, nous lisons ce titre comme incipit du célèbre manuscrit aujourd'hui à la bibliothèque du Vatican sur le numéro 3195. Francisci Petrarque laureati poete rerum vulgarium fragmenta. Pourquoi ce titre en langue latine pour une œuvre qui explicitement traite de choses vulgaires ? Cette proximité entre latin et italien est-elle le signe d'une confrontation, ou plutôt d'un laxisme linguistique ? Chez Dante, rappelons-le, L'italien et latin semblent presque être interchangeables. Je reprends ici les idées que Michel Zinc avait déjà proposées. Très souvent, dans la comédie de Dante, latino veut dire italien et non pas latin. Au chant 27 de l'Enfer, Guido da Montefeltro, un des conciliateurs de Fraude qui sont punis au 8e siècle, s'adresse à Virgile, qu'il croit être arrivé tout récemment. C'est tout pour moi, in questo modo cieco, caduto sei di questa dolce terra, latina, on dio mio, mia colpa, tutto reco, dimmi se i romagnoli hanno pace o guerra. Virgile, alors, dis-moi si les romagnoli ont la guerre ou la paix. Toi, qui viens de cette douce terre latine. Virgile alors se tourne vers Dante et le prie de répondre à sa place. Parla tu, questi è latino. Parle-toi, celui-là, il est latin ou italien. Latino ici équivaut à italiano. De même, quant au chant 11 du Purgatoire, Guglielmo Aldobrandesco se présente à Dante en disant « Io fui latino e nato d'un gran tosco »« Je fus latin ou italien et né d'un grand toscan » Il veut dire qu'il est italien. Et quand Virgile et Sordello, tous deux de Mantoue, découvrent qu'ils sont de la même ville, ils s'embrassent tendrement. C'est alors que Dante, auteur, intervient avec sa grande plainte sur l'Italie tombée en servitude. Ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quant au chant suivant, Virgile s'est nommé Sordello, originaire de Mantoue, mais poète provençal, s'exclame, pris d'enthousiasme, au gloria des latines, disse per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra. La lingua nostra, dans ce contexte, veut dire la langue à la fois latine et italienne et provençale. La lingua nostra, c'est à la fois le latin, l'italien et aussi le provençal, qui, au chant 26 du même purgatoire, a l'honneur d'être mis dans la bouche du miglior fabbro, c'est-à-dire d'Arnaud Daniel, poète provençal de distinction. Si le latin n'est pas une autre langue, c'est cependant un autre registre, un autre niveau de style stylistique de la langue. Au début de la Vita Nova, Dante marque la hauteur de son ambition littéraire en donnant au livre un titre latin. In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. C'est en latin. De même, le titre Rerum Vulgarium Fragmenta de Pétrarque marque son ambition de vouloir présenter une œuvre en langue vulgaire ou populaire qui sera accessible aux lecteurs non érudits, mais qui veut se placer au même niveau que les textes classiques en langue latine. Dans son sonnet d'introduction, Voi che ascoltate, vous qui écoutez, le poète promet à son lecteur des poésies en vario stile, en style divers. Il semble que le registre du vario stile en latin, que Pétrarque manie magistralement, s'ouvre à une nouvelle gamme de vario stile dans sa poésie en langue vernaculaire. Or, tandis que le titre de canzoniere, donné aux éditions imprimées, met en relief un lyrisme chanté ou chantable, le titre que Pétrarque lui-même a donné à son œuvre est toute une poétique innuce. Que Pétrarque ait bien travaillé à son titre, nous le savons par une première version qui s'est conservée dans un manuscrit antérieur, copié par Boccace lui-même, où le titre probablement remanié par Boccace est Viri illustris ad poeta celerimi Francisci Petrarche de Florentia Roma nu per laureati fragmentorum liber incipit feliciter. Retenons l'essentiel, liber fragmentorum. La paradoxie de cette formule reviendra dans le titre définitif avec des modifications importantes cependant. Un regard attentif au titre latin définitif nous peut donner des indications précieuses au projet poétique de Pétrarque, qui est loin de n'être qu'un chansonnier ou canzoniere. Le titre latin, en effet, est une partie essentielle de l'œuvre même, dont la substitution revient à une amputation. La coprésence du titre latin et de l'œuvre en langue vulgaire nous donne dès le début une idée du rang auquel Pétrarque visait. Le titre même est un lieu de tension et de contradiction subtilement mise en œuvre qui renvoie déjà à la complexité de l'œuvre. Pétrarque, tout en se servant du latin, annonce néanmoins des choses vulgaires, res vulgares. Que veut dire res vulgares? Sens des choses écrites en langue vulgaire? Mais quelles choses? Et pourquoi appelle-t-il ses poésies des choses, res, choses, qui d'autre part lui sont si précieuses qu'il se sert du latin pour les annoncer? Est-ce qu'il s'agit de choses vulgaires parce que ce sont des poésies d'amour et donc des poésies frivoles en contraste avec sa grande épopée latine Africa avec laquelle il voulait annoncer un nouveau printemps poétique après la nuit du Moyen-Âge? D'ailleurs, Moyen-Âge est un concept qui justement a été forgé par Pétrarque lui-même, Medium Evum. Donc, un nouveau printemps poétique après la nuit du Moyen-Âge et qui, en fin de compte, ne fut qu'un échec. Le sonnet inaugural reprend le ton de réprobation du titre. Ce n'est que vanité ce qui lui a inspiré ses soupirs poétiques d'amoureux frustrés. Ma ben vegior si come al popol tutto favola fui gran tempo, onde soente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, il pentersi, il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Je vais toujours citer Pétrarque, parce que je crois qu'il faudrait l'écouter dans sa voix propre, et puisque nous avons ici la pluralité des langues de quoi il s'agit, mais je vais toujours ajouter une traduction française, et là je me sers d'une traduction courante, parce qu'elle est dans les poésies Gallimard, du comte Ferdinand de Gramont. Donc ici, la traduction... Mais je vois bien aujourd'hui comment pendant longtemps j'ai été la fable de tout le monde. Aussi souvent, en face de moi, je me fais honte de moi-même et de mes vanités. La honte est le fruit que je recueille avec le repentir et l'éclatante conviction que tout ce qui charme ici-bas n'est qu'un songe rapide. Ces choses donc nées de vanité juvénile et du désir de plaire au popol tutto, à tous les gens, seront le sujet du livre présenté cependant en langue docte qui ne permet pas de traiter des choses et encore moins de choses vulgaires. Il est évident que ce rabaissement n'est qu'ironie et que la modestie affichée cache mal une ambition qui vise haut. L'auteur de ces choses vulgaires, Res vulgares, se présente pourtant comme poeta laureatus. Cette présentation de soi donne à penser, elle aussi. Évidemment, Pétrarque se réfère à son titre de gloire, à sa lauréation solennelle de poète en 1341 par le Sénat de Rome. Pétrarque, certes, ne pourra pas avoir oublié que cette distinction, arrangée d'ailleurs lourdement par lui-même, n'avait qu'un fondement assez peu solide. La pièce de résistance de ce couronnement de poète n'était qu'un morceau, il est vrai, brillant, de son épopée latine Afrique. Mais la désignation de poeta laureatus vise bien plus loin. Laureatus ne signifie pas seulement une qualification quasi-académique, il signifie aussi glorifier et même glorifier. L'auteur est hanté, obsédé. Par qui ? Est-ce par l'or, l'aura, l'amante cruelle et inabordable ou par le laurier, désir de gloire ? La hantise de l'aura ou du laurier est aussi une hantise du temps. Vendredi saint de l'année 1327, Pétrarque aurait vu l'or pour la première fois dans une église d'Avignon. Era il giorno che il sol si scoloraro per la pietà del suo fattore, il rai, quando io fu preso e non me ne guardai, che i vostri occhi, donna, mi legaro. C'était le jour où le soleil en deuil de son créateur décolore ses rayons lorsque, ne prenant pas garde à moi, je fus fait prisonnier et enchaîné. Dame, par vos beaux yeux. Le sonnet 211 retient encore une fois cette date fatidique. 1327, appunto, sull'ora prima, il 16 d'aprile, nel labirinto entrai, neve gior ondesca. Donc, exactement dans le 6 d'avril, en 1327, j'entrais dans le labyrinthe. Et je ne vois pas comment je pourrais en sortir. Un vendredi saint, Pétrarque, se promenant dans le paysage près de Vaucluse, reçoit l'inspiration pour son épopée Afrique. À Pâques 1341, Pétrarque reçoit la couronne de laurier au Capitole, et l'or meurt 1348, le même vendredi saint qui était le jour de la première rencontre. C'est tout un mythe de printemps et de la Renaissance qui marque les étapes essentielles du poète. Le poeta laureatus est obsédé par une double absence et par un double échec. L'aura sera toujours absente, pur fantôme ou souvenir insaisissable qui, après sa mort, devient souvenir absolu. Le rêve du poète et de pouvoir briser par la force immédiate de sa poésie le refus de l'aura, poésie bouleversante comme celle d'Orphée. Mais, hélas, la poésie aussi se refuse à lui, le poète délaissé par l'or aussi bien que par le laurier, reste seul avec soi-même et avec sa parole intérieure, son pensare. Et pourtant, de la négativité de cette hantise au-delà du pensar, naît une nouvelle poésie solitaire. Rien de plus significatif pour cette réversion de la communication sur elle-même que le sonnet 131, où le poète s'imagine, pour un moment, dans le mode du conditionnel, une force de poésie qui briserait toute résistance. Io canterei d'amor si novamente cal duro fianco il dì mille sospiri trarei per forza e mille alti desiri raccenderei nella gelata mente. Il bel viso vedrei cangiar sovente e bagnar gli occhi e più pietosi giri far come suol che degli altrui martiri e del suo error quando non val si pente e le rose vermiglie infra la neve muover da l'ora e discovrir l'avorio che fa di marmo chi da presso la guarda e tutto quel che nel viver breve non rincresco a me stesso, anzi mi glorio d'esser servato alla stagione più tarda. Je lis aussi le texte original parce que là vous entendez la rime qui est essentielle à la poésie de Pétrarque, ce qui quelquefois est oublié, et les traductions philologiquement correctes, évidemment, ne peuvent jamais rendre ce jeu essentiel des sonorités en italien. Mais je vous donne tout de suite la traduction. Vous verrez aussi ce désir impuissant du poète qui s'exprime pourtant dans une poésie réussie de second degré, basé sur l'échec. Je chanterai d'amour d'une façon si nouvelle qu'un jour je tirerai par force 1000 soupirs du sein de l'inhumaine et que je rallumerai dans son âme glacée 1000 profonds désirs. Et je verrai son beau visage changer continuellement et ses yeux se baigner de larmes et s'agiter plus attendris, comme fait d'ordinaire quiconque se repent des martyrs d'autrui et de sa propre erreur qu'il reconnaît, et s'émouvoir à la brise les roses vermeilles parmi la neige, et se découvrir l'ivoire qui change en marbre celui qui le regarde de près, et tout ce qui, dans cette brève existence, m'empêche d'être à charge à moi-même et me fait plutôt me féliciter d'être réservé pour la raison la plus avancée. L'amante qui est au centre des Rerum Vulgarium Fragmenta a-t-elle un nom assuré ? Le nom de Laura n'y apparaît qu'une seule fois, au sonnet 291, « Quand io veggio dal ciel scender l'aurora », quand je vois descendre du ciel l'aurore, le poète à l'aurore du matin se rappelle Laura, présente déjà dans de manière onomastique dans l'aurora, ivi et laura ora. Mais hélas, Laura est absente, ce qui reste d'elle n'est que son nom, né di sé m'ha lasciato altro che il nome. Elle m'a laissé seulement son nom. Dans deux autres poésies, le nom de l'amante oscille entre Laura et Laurea, forme latine du nom de Laura, est plus proche de la désignation latine du laurier. Ici, au cœur du cycle, s'affirme la coprésence du latin et de l'italien que le titre déjà annonce. Le sonnet 225, « Dodici donne onestamente lasse », est un rêve allégorique où le poète voit l'amante sur un char triomphal. C'est là que, de façon explicite, apparaît son nom latin. Poi vidi in un carro trionfale l'aurea mia con suoi santi atti schivi sedersi in parte e cantar dolcemente. Puis je vis sur un char triomphal Laura. Laurea. Tout le sonnet 5, enfin, est bâti sur un jeu onomastique entre Laura et Laurea. Dans ces deux quatrains, Lau de Laudando, Ré de Réal et Ta de Taachi, souligné par la majuscule, forme le nom peu probable de Laureta. De même, dans les deux tercets, Lao de Laudare, Ré de Réverir et A d'Apollon forme le nom de Laurea. Mais si avec cette A, première lettre d'Apollon, nous complétons le nom incomplet des quatrains, il devient Laureata. Et si nous mettons les deux noms ensemble, il en résulte Laureata Laurea, Laura portant la couronne du laurier. De même, les anagrammes du nom de l'amante qui traversent tout le texte et qui sont, pour ainsi dire, la manifestation textuelle d'une hantise ou obsession en permanence, se lisent toujours Laura ou Laurea, ou bien les deux à la fois. Mais le mot laureatus, du syntagme poeta, laureatus, est aussi un mot clé sous un autre aspect. L'amour du poète à laureatus, soit pour l'amante, au nom de Laura, ou bien de Laurea, soit pour le laurier, signe de gloire poétique, se réfère au mythe d'Apollon et de Daphné tel que nous le trouvons dans les Métamorphoses d'Ovide. Le dieu Apollon s'éprend de la nymphe Daphné qu'il poursuit et qui, au moment même où il croit la saisir, se métamorphose en laurier. Le nom propre de Daphné devenant ainsi une désignation générique. En grec, en effet, Daphné veut dire laurier. C'est au moins, dans l'interprétation de Pétrarque, ce moment où Apollon devient le poète d'une Daphné absente, mais c'est le moment aussi où Daphné Laurier consent à lui donner son feuillage, distinction digne du meilleur des poètes. Au titre de ces poésies qui ne sont pas adressées à l'or, mais qui, dans une suite obsessive, réfléchissent son absence, Pétrarque se nomme poeta laureatus. Poeta, ici, a un double sens. En italien, ce serait ou bien poeta ou bien rimatore. Cette ambiguïté rend bien la situation spécifique de Pétrarque face à son œuvre. Poète de choses vulgaires, il devrait se comprendre comme rimatore, rimeur. D'autre part, il se voit trop dans une tradition latine pour ne pas se considérer poeta. Ce serait une erreur, cependant, de voir dans le rimatore une sorte de poète inférieur. La rime est une réussite de la poésie moderne qui surpasse la poésie de l'Antiquité. C'est au moins la conviction du Trecento italien à partir de Dante. Pour Dante, dans son De vulgari eloquentia, duquel nous avons déjà parlé, la rime a une fonction essentielle pour la canzone, seule forme, selon lui, d'être digne de la mémoire culturelle. Que, pour Pétrarque, poète en langue vulgaire, la rime est de la plus grande importance, s'illustre par le fait que le tout premier vers du sonnet inaugural se réfère déjà à la rime. Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono. Vous qui écoutez dans des rimes éparses le son. Passons maintenant au dernier mot du titre, fragmenta, qui nous ouvre de nouveau un aspect particulier de l'œuvre de Pétrarque. Nous connaissons toutes sortes de fragments en histoire littéraire. Fragments lyriques, fragments philosophiques, fragments des romantiques, etc. Mais, pour Pétrarque, l'image du fragment a encore un sens très concret. Dans une lettre au dominicain Giovanni Colonna, il se rappelle leur promenade à travers les ruines de la vieille Rome. Et euntibus per menia urbis et illic sedentibus ruinarum fragmenta sub oculis erant. Et nous promenons à travers les murs de la ville et nous plaçons là les fragments des ruines étaient sous nos yeux. Les pièces de marbre brisées, souvent ornées de scènes ou de figures, sont l'expérience directe dont Pétrarque est le premier à se servir comme métaphore pour le texte rompu. Avant, il n'y a pas de fragments en littérature. L'ensemble des poésies de Pétrarque vouées à Laura ne font pas un tout cohérent. Elles ne racontent surtout pas un roman d'amour. C'est une discontinuité de poésie en poésie qui pourtant vise à un tout en mouvement et jamais fini. Même juste devant la mort, devant sa mort, Pétrarque a encore réarrangé ses poésies et on peut être sûr qu'il aurait continué ainsi. Que Pétrarque comprenne ses poésies sous l'image de la pierre brisée est essentiel pour son projet. Malgré leur forme accomplie, ou bien peut-être à cause de cette forme accomplie, elles ne se rangent pas dans une cohérence narrative. Chacune de ces poésies est un drame de la conscience, un sommet dans cette réflexion toujours mélancolique et continue que Pétrarque appelle pensar, penser, réfléchir, poursuivre une idée mélancolique. Ce sont, dans le langage de Goethe, peut-être même inspiré de Pétrarque, des miroitements réitérés, wiederholte Spiegelungen. Le tout des Rerum Vulgarium Fragmenta ne suit pas un plan préétabli. C'est une œuvre en devenir qui progressivement prend conscience d'elle-même. Sa seule linéarité est celle du temps qui s'éloigne du moment fatidique de la première rencontre. Au fragmenta évoqué par le titre correspond à l'intérieur de l'œuvre l'image du laurier déchiqueté, brisé, dont le moi amant et poète recueille les feuilles dispersées sur terre, image à la fois de la mort de Laura et du déchirement de l'œuvre. Ainsi, dans le sonnet 318, en voyant un laurier arraché avec ses feuilles éparses sur terre, le poète se souvient de la mort de Laura. al cadere di una pianta che si svelse come quella che ferro o vento sterpe, spargendo a terra le sue spoglie e celze, mostrando al suol la sua squallida sterpe, vidi un'altra ch'amor oggetto scelse. À la chute d'une plante qui fut arrachée, semblable à celle que le fer ou le vent déracine, en répandant à terre ses dépouilles supérieures et découvrant au soleil sa couche ténébreuse, j'en vis une seconde qu'amour a choisi pour objet et que m'en donnait pour sujet Calliope et Euterpe. Et dans le sonnet 333, Iteri medolenti, aller vers douloureux, le poète fatigué et souhaitant la mort se voit recueillant toujours les feuilles du laurier, c'est-à-dire les poésies en sa mémoire, sol di lei ragionando viva e morta, seul pensant à elle, vive ou morte, ma ricogliendo le sue sparte fronde dietro le vo pur così, passo a passo. La pierre de marbre qui tombe en fragments est l'origine de l'image du laurier déchiré dont le poète recueille les feuilles. Mais la relation entre pierre et fragment met en scène aussi une autre corrélation poétique. Comme Méduse, le regard froid de l'amante métamorphose le poète en pierre. Ainsi, dans la canzone de la Vierge, qui termine le livre, le poète, dans un souvenir amer, se rappelle à la fois le regard de Méduse que lui a adressé Laura et sa propre vanité de poète. Medusa e l'error mio m'han fatto un sasso d'humor vano stillante. Méduse et mon erreur ont fait de moi un rocher distillant, une onde vaine, ô Vierge. Viens combler de larmes saintes et pieuses mon cœur épuisé, que du moins ces derniers pleurs soient produits par la dévotion et pure de terrestre limon, si les premiers n'ont été pleins que de folie. Au sonnet 197, Laura celeste, qu'en quel verde lauro, le regard de l'or a la force de changer l'âme du poète en marbre. Ma gli occhi hanno vertù di farne un marmo. Et dans la canzone 129, le poète réveillé de sa rêverie, qui lui donne l'illusion de la présence de l'or, se sent devenir pierre. Me freddo, pietra morta, in pietra viva. Moi, froid comme une pierre morte. Et au sonnet 131, déjà cité, la beauté de Laura, fa di marmo qui t'appresso il guarda, fait de marbre, métamorphose en marbre celui qui la regarde de trop près. Le refus de Laura, auquel le poète se voit exposé, le change en pierre, qui est en même temps matériel du fragment. Mais si la pierre, le marbre, se brise en fragments, c'est elle aussi qui, par sa dureté, triomphe du temps. Ici, il faut revenir à un dernier élément du titre, qui est le nom du poète même, Franciscus Petrarca. Les poésies qui suivront sont donc les fragments de Francesco Petrarca. Petrarca, c'est l'arche en pierre, arc en pierre. Ne sommes-nous pas ici devant une deuxième rêverie onomastique? Le nom de famille du poète est Francesco Petrarca. Ce Francesco a transformé son nom en Francesco Petrarca, et il semble évident que ce n'était pas sans penser au marbre qui résiste au temps, voire qui triomphe sur le temps. Est-ce par hasard que le tombeau qui contient sa dépouille immortelle et qui s'érige magnifiquement devant l'église d'Arqua Petrarca soit en marbre, vraie arche de pierre et donc mise en scène du nom même? Quand Laura, par son regard, change le poète en pierre, ne le ramènerait-il pas à lui-même, à Petrarca, comme Daphné, en se refusant à Apollon, l'a rendu poète? Dans la canzone d'un dolce tempo della prima etade, célèbre canzone des métamorphoses, le poète amoureux subit toute une série de transformations cruelles. Il se voit métamorphosé en laurier vert, puis en cygne au plumage blanc, et enfin en pierre. La dame aimée, tosto tornando, fecimi oimè l'asso d'un quasi vivo e sbigottito sasso. La dame sévère interdit à l'amant toute plainte amoureuse. C'est alors que le moi, au désespoir, a recours à la plainte intérieure qui s'exprime silencieusement. Le vive voci m'erano interdite, ond'io gridai con carta e con incostro, non son mio, non, si io moro, il danno è vostro. Donc, les vivantes paroles m'étaient interdites, je criais donc avec le papier et l'encre, je ne suis plus à moi-même, non, si je meurs, le mal en retombe sur vous. Ici, je regarde et je devrais avoir encore une feuille qui s'est perdue quelque part. Un moment. Oh. Ce sont les fragments qui se sont un peu envolés. Et évidemment, c'est toujours le problème. Qui arrive au dernier moment. Allez, 10, 11. Bon. Puis, pas d'espoir. Non. Rien qui se cache ici. Donc, peut-être même.
Tu conclus aurez, d'abondance, vous, ce sera plus brillant.
Peut-être même vous aurez, vous manquerez la fin si soigneusement préparée. Mais il n'y a pas de chance, je crois, si ce n'est que non, le traducteur qui devrait avoir le manuscrit, mais il n'est pas ici. Hein.
Non.
Il est dans sa cabine, le pauvre. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a une chose que je veux dire pour terminer, c'est que Pétrarque rêve toujours d'avoir la voix d'Orphée, mais il réalise bien qu'à sa disposition, il y a seulement l'écriture. Et donc, cette poésie de Pétrarque est essentiellement une poésie de l'écriture et elle n'est pas un chansonnier. Donc, le terme de chansonnier contredit exactement le programme des Rerum Vulgarium Fragmenta de Pétrarque. Évidemment, on peut dire que c'est toujours un peu le risque de l'histoire de la réception, que l'intention de l'auteur ne soit pas trop respectée, mais ici, c'est vraiment l'inversement de l'intention. C'est l'intention du poète. Et pour terminer, je voulais dire une seule chose, c'est que il y a dans cette poésie vulgaire, mais écrite, une sorte de présence tacite du latin et des grands classiques latins. Et c'est pour moi un signe particulièrement distinctif de Pétrarque. Pétrarque est un classiciste. Il est un classiciste comme Horace était classiciste à son époque. Et ce sont, peut-on dire, les Romains qui ont, d'une certaine manière, inventé le classicisme. Il y a chez Horace une présence de la poésie grecque, comme chez Pétrarque, il y a une présence tacite de la poésie latine, de la mentalité latine qui se mêle, qui se mélange justement à cette poésie en langue vulgaire. Et avec ceci, et un peu de façon improvisée, je vais terminer. Merci beaucoup.